du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce lundi 23 mars. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir David Torchala. Bonjour David.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec vous David. Bien sûr, nous allons parler dans quelques instants du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et on se faisait, on regardait le calendrier, pas qu'est là. Pâques va être là.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est déjà là, ça arrive très tôt. Voilà, bah c'est dimanche, ce sont les rameaux. Donc, évidemment, on se met dans le rythme de la saison.
Hein. Et parce que théoriquement, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, eh bien, se met en position saisonnale.
Pour, et oui, c'est ça. Et de, vraiment, il nous faut accueillir tous ceux qui vont se presser aux portes du sanctuaire. Ils vont être nombreux, nous dit-on. On verra bien.
Allez, dans quelques instants, on va parler d'un événement convivial, mais surtout profondément solidaire, puisque que du 27 au 29 mars, à l'espace Robert Hossein, à Lourdes, se tiendra la 8e édition du salon Mai et Vin Bernard Moulet, qui est organisé par le Lions Club de Lourdes. C'est un salon qui était né en 2014, porté à l'origine par une idée visionnaire de Bernard Moulet, membre emblématique du club, et qui continue aujourd'hui. Et c'est pour envoyer des enfants, les enfants démunis en vacances, dès cet été, des séjours pour des enfants. Et bien voilà, la recette de ce salon va servir à envoyer des enfants cet été en vacances, et ça c'est plutôt une belle action. Et puis on retrouvera bien sûr, comme on le fait chaque semaine, Mathias Terrier pour le magazine de Passage à Lourdes. Tout de suite on retrouve l'essentiel de l'actu en ce lundi.
À Toulouse, Jean-Luc Moudenc, largement réélu maire avec plus de 53% des voix. Il devance nettement le candidat de la gauche unie dans un contexte de forte mobilisation des électeurs. Dans le reste de la région, plusieurs enseignements. À Tarbes, une triangulaire opposait le Rassemblement National, la droite et le centre. Arrivé en tête au premier tour, Pascal Claverie confirme sa percée face à Éric Peyrène et Michel Garny. À Auch, dans le Gers, c'est finalement Camille Bonne, d'hiver droite, qui s'impose au terme d'une quadrangulaire très incertaine, avec 37% des voix. À Albi, la maire sortante Stéphanie Biro-Chomeil est reconduite pour un nouveau mandat. À Rodez, en revanche, changement de cap avec la victoire de Stéphane Mazard, qui met fin à 18 ans du mandat du maire sortant. À Montauban, enfin, victoire du candidat RN Didier Lallemand, à l'issue d'un scrutin serré. Dans l'actualité judiciaire, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise au procès du meurtre de Justine Veyrac. L'accusé continue de parler d'un accident. Et puis, une note plus positive. À Cahors, une association unique en France propose le golf pour améliorer le quotidien des malades de Parkinson.
Merci Kevin Mouveau.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Voilà, qui est étudiant à l'école de journalisme de Toulouse et qu'on retrouvera tout à l'heure aux alentours de 12h30 pour le journal régional de la mi-journée. Mais pour l'heure, on va prendre des nouvelles du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Radio Présence dans la cité mariale, 96.6.
Et c'est avec vous, David Torchala, qu'on parle de cette actualité Pâques approche. Et donc, les rameaux, c'est dimanche prochain. Et traditionnellement, c'est le début de la saisonnalité pour le sanctuaire.
Oui, effectivement. Et puis d'ailleurs, la semaine prochaine, mercredi déjà, dans deux jours, c'est le 25 mars. C'est le jour de l'Annonciation. Vous savez qu'à Lourdes, cette solennité revêt un caractère particulier, parce que c'est en effet à cette date qui a convaincu le curé de Lourdes de croire aux apparitions exposition qui avait lieu à la grotte de Massabielle. Je veux parler du 25 mars 1858 avec, voilà, évidemment, Bernadette Soubirousse. Depuis le temps qu'on lui demandait, mais comment s'appelle cette dame que tu vois depuis le 11 février? Eh bien, voilà, le 25 mars, elle lui révèle son nom. Elle lui dit, je suis l'Immaculée Conception. Et donc, c'était impossible, peut-on dire, que Bernadette eut connaissance de cette notion, parce que c'est un drôle de prénom, il faut le dire, l'Immaculée Conception, parce que c'est plus qu'un prénom, c'est aussi la définition d'un dogme 4 ans auparavant par le pape Pie IX. Et donc, voilà, c'était impossible pour elle de connaître ce nom-là. C'est ce qui va faire basculer tout le destin de cette cité mariale, devenue aujourd'hui un lieu de pèlerinage évidemment mondial. Et donc, ça, on va marquer mercredi, évidemment, cette fête de l'Annonciation avec une messe qui sera célébrée par le recteur du sanctuaire, le père Michel Dauban, à la grotte elle-même. Ça sera à 10h, transmis pour ceux qui nous écoutent dans les Hautes-Pyrénées, le Gers et le Béarn sur notre antenne. Et puis, voilà.
Et puis, pour les autres, il faut qu'ils aillent voir la chaîne YouTube.
Ah ben c'est ça, il faut aller voir la chaîne YouTube. Ou peut-être que ça donnera des idées à nos amis de Toulouse, peut-être de diffuser cette messe à 10h. Évidemment, voilà une grande fête. Et puis, évidemment, dimanche, c'en est une autre avec ce dimanche des Rameaux. Mais avant d'arriver toujours au dimanche des Rameaux, il y a encore autre chose cette semaine. Ben oui, qu'il y a eu la session des économes diocésains la semaine dernière. Eh bien, ce sont les évêques de France qui sont là pour leur assemblée dite de printemps. Ils arrivent aujourd'hui et repartiront le 28 mars, évidemment, pour aller célébrer la Semaine Sainte dans leur diocèse respectif. Et donc, voilà, comme tous les ans, il nous faut préparer l'hémicycle du sanctuaire pour accueillir les évêques. Il y aura évidemment beaucoup de thèmes qui seront abordés pendant cette assemblée plénière, particulièrement l'éducation ou encore la liturgie, dans la perspective du consistoire annoncé par le pape Léon XIV. Ils commémoreront également le 30e anniversaire des 19 bienheureux martyrs d'Algérie. Et à cette occasion, le Centre des ressources historiques du sanctuaire accueillera une exposition appelée « Deux fois les martyrs d'Algérie » qui sera visitée par les évêques le 25 mars, justement, l'après-midi. Et puis cette exposition qui est itinérante, qui était à Rome, qui est au Collège des Bernardins, repartira pour le Forum de Paris tout de suite après. Donc, vous voyez, le 25 mars, assemblée plénière, et on enchaîne tout de suite avec le dimanche des Rameaux, et puis avec cette belle proposition qui est faite par le sanctuaire, voilà, vraiment d'être auprès de sa mère pour accompagner Jésus dans sa passion. Je pense que c'est dans ces termes-là que l'invitation peut se résumer, celle du sanctuaire, pour que chacun vienne célébrer la résurrection du Seigneur à Lourdes, et de pouvoir vivre cette Semaine Sainte à Lourdes. Évidemment, des propositions, il y en a beaucoup dans les paroisses, etc. Mais si vous avez le souhait dans votre cœur de venir vivre les offices d'une manière un peu différente, eh bien voilà, vous pouvez venir à Lourdes. Vous savez que le sanctuaire a développé une plateforme de réservation d'hôtels. Alors on peut même réserver son hébergement sur le site du sanctuaire et puis recevoir tout le programme détaillé de tous les offices avec un accompagnement personnalisé. Ça c'est une nouveauté. Ils sont déjà plusieurs milliers à nous faire confiance et nous feront confiance encore cette année avec ce principe-là. Donc je vous tenez à le, ben à oui, le faire savoir.
Et il faut aller sur donc le site officiel du sanctuaire
www.lourdes-france.com. Voilà, oui. lourdes-france.com. Voilà, vous pouvez réserver également votre hébergement. Et puis pour ceux qui se préparent à venir dimanche 9h30, bénédiction des Rameaux sur l'esplanade de la basilique du Rosaire, et puis grande messe à 10h à la basilique souterraine Saint-Pie-X. Il y a du monde, alors on prend les grandes basiliques, évidemment. Il faut de la place pour tous.
Voilà, bien sûr. Et puis pour ceux qui ne pourront pas y assister, ben voilà, direction le site du sanctuaire aussi, où TV Lourdes est là pour faire voir ses retransmissions.
Exactement. Et donc avec également tout le programme du Triduum, du Jeudi Saint, Vendredi Saint aussi, avec une nouveauté pour le Vendredi Saint, il y aura en soirée un chemin de croix au flambeau sur l'esplanade. Ça c'est Vendredi Saint prochain à 20h30. Ça sera très beau. Et puis après il y aura aussi cette belle veillée pascale avec la bénédiction prendre du feu nouveau, mais de tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, parce que
bien sûr,
on soit entré déjà dans la semaine sainte.
Et on va saluer, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant le sommaire, tous les saisonniers qui arrivent petit à petit au sanctuaire pour se préparer à cette saison.
Oui, vous faites bien de le dire, les saisonniers, ils sont petites centaines à venir resserrer les rangs de la communauté d'accueil du sanctuaire pour préparer l'accueil des pèlerinages. C'est achevé une formation des sacristains, des nouveaux sacristains. Vous savez qu'elle n'existe pas, hein, l'école des sacristains, et encore plus au sanctuaire de Lourdes. Donc, ils ont eu 15 jours de formation. C'est aussi l'occasion de revoir aussi les plus anciens pour remettre tout ça au goût du jour, et puis surtout préparer aussi les offices de la semaine sainte, parce que cela n'ont lieu qu'une fois par an, et donc avec une liturgie bien particulière. Et puis évidemment, on reçoit également des feutiers des saisonniers chez les feutiers, hein, donc là aux chapelles de lumière, là où on dépose et on brûle les cierges du sanctuaire, avec voilà un renfort qui est bien important pour la saison, du renfort aussi à la librairie du sanctuaire, du renfort dans les maisons d'hébergement, du renfort dans le service de sécurité. Voilà, ils sont là, soyez les bienvenus à tous, chers amis saisonniers, parce qu'on va vivre une belle saison longue qui va nous amener jusqu'à la fin octobre, début du mois de novembre.
Du travail, voilà, en perspective pour vous et vos équipes. Merci beaucoup David Torchalab. On se retrouve bien sûr comme d'habitude la semaine prochaine.
Oui, je serai là, promis. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.
Présence à Cahors, 92.5.
Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un rendez-vous devenu incontournable à Lourdes, un événement à la fois gourmand, convivial, mais surtout profondément solidaire. Du 27 au 29 mars, à l'espace Robert Rossin, se tiendra la 8e édition du salon Mai et Vin. Bernard Moulet, c'est un peu le sous-titre de ce salon, organisé par le Lions Club de Lourdes. Un salon né en 2014, porté à l'origine par une idée visionnaire de Bernard Moulet, membre emblématique du club, et qui, malgré sa disparition en 2019, et une interruption pendant le Covid, a su s'imposer comme un temps fort et attendu chaque année. Le principe est simple, une entrée gratuite, des dégustations accessibles et surtout chaque participation contribue directement à financer des actions concrètes. Des séjours pour les enfants avec vacances plein air, un soutien à la recherche contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi une belle vitrine pour nos producteurs avec une quarantaine d'exposants venus partager leur savoir-faire entre mets raffinés, vins, bières et produits du terroir. Alors comment ce salon s'organise-t-il? À qui profite-t-il concrètement? Et pourquoi il mérite vraiment qu'on s'y arrête ce week-end? C'est le sujet aujourd'hui de notre émission. Bonjour, monsieur Patrick Domer.
Bonjour, Philippe. Merci de nous donner la parole et de mettre en évidence notre action.
Vous êtes le président, hein, parce qu'il tourne, il est tournant le président des Lions, donc vous êtes le président actuel.
Pour cette année.
Pour cette année. Et puis vous êtes accompagné d'Alain Marquette. Hein. Bonjour Alain.
Bonjour Philippe.
Vous êtes aussi membre donc du Lions de Lourdes.
Oui, tout à fait.
On va prendre le temps de parler de ce salon Mai et Vin. On a dit un nom, hein, juste deux mots sur Bernard Moulet.
Bernard Moulet, tout simplement. Bon, déjà, c'était mon beau-frère.
Voilà.
Et puis c'est lui qui avait eu cette idée et d'initier ce salon, chose qui n'avait jamais été faite sur Lourdes à l'époque. Voilà, comme c'était, comme tout le monde le sait, un bon vivant, qui aimait bien la bonne vie, la bonne chair et le bon vin. Voilà, c'était tout naturel qu'il mette en avant cette. Et c'était un homme de cœur.
Et c'était un homme de cœur, puisque à travers les producteurs qui seront là, vous l'avez dit, des producteurs locaux, hein, de notre région, en ce qui concerne au moins les mets, on peut allier, hein, ce côté convivial et aussi ce côté solidaire.
Voilà. Juste une précision, quand tu as dit, Philippe, que l'entrée était gratuite, effectivement, mais l'entrée, nous, les membres du Lion seront présents pour vendre un verre de vin, un verre pour qui servirait à la dégustation.
Voilà.
Donc ces fonds, ces bénéfices seront reversés effectivement pour le VPA, puisque ces vacances plein air, on envoie des enfants dont les parents sont souvent en situation difficile en vacances, et aussi pour la recherche du cancer de l'enfant et de l'adolescent. Voilà.
C'est la 8e édition
Donc c'est un rendez-vous qui commence à être rodé et connu. D'ailleurs, vous me disiez que vous aviez 8 à 9 exposants de plus sur cette 8e édition, ce qui prouve que le bouche à oreille fonctionne et que les producteurs viennent vous rejoindre. Ce salon, il permet, on l'a dit, ce côté solidaire aussi, hein, c'est que les bénéfices que vous allez faire sur ce salon vont servir dans l'année pour vos œuvres que vous réalisez chaque année.
Oui, tout à fait. Alors, une petite précision, outre le verre de vin, il y a aussi un gobelet pour la bière, puisque on a des vignerons de tous les terroirs de France et des brasseurs locaux, puisque les vignerons, on a essayé de balayer l'ensemble des territoires et des terroirs français. L'objectif, c'est aussi et surtout de mettre en évidence toute la richesse du terroir français, des différents vignobles. On va pouvoir en découvrir de très qualitatifs. Et ce que l'on n'a pas dit, c'est que on a refusé au moins une trentaine de sollicitations de divers terroirs, de divers domaines. L'objectif étant d'avoir un seul vigneron par territoire et par terroir, de façon à ne pas à garder cet aspect qualitatif.
Ce salon, donc, effectivement, met à l'honneur aussi notre terroir, vous l'avez dit, deux endroits emblématiques pour le vin, puisque vous m'avez dit que vous aviez des Côtes-du-Rhône et du Châteauneuf-du-Pape. Et vous ne vouliez pas non plus qu'il y ait sur une région, par exemple sur du vin... qui viendrait d'une région, vous ne voulez pas deux maisons différentes qui se feraient concurrence.
Tout à fait. Là, la petite particularité, c'est deux domaines dont on a parlé précédemment. C'est vrai que c'est deux pépites. Voilà, ça a été le rapport de notre équipe qui était en prospection. On va proposer deux pépites, un Côte-du-Rhône et un Châteauneuf-du-Pape. Alors, on ne va pas nommer ces domaines parce qu'on va laisser la primeur à nos visiteurs de venir découvrir, mais c'est vraiment deux pépites quand on entend les comptes rendus de notre équipe qui a été prospectée.
Parce que bien sûr, un salon, ça se prépare et il y a en amont, bien sûr, vous allez, vous, enfin des membres de votre équipe, du Lyon, de Lourdes, ben, vous allez rencontrer ces châteaux, ces vignobles, et vous allez faire une dégustation, discuter avec eux, et pour que les producteurs qui seront là, c'est du qualitatif.
Voilà, l'objectif, c'est vraiment un territoire, un terroir, et faire découvrir le travail des vignerons, comment ils produisent ce qu'ils produisent, et de l'expliquer. Et des membres, effectivement, des membres du club, rompus au vin, et dont certains se sont fait une spécialité, voyagent dans les différents terroirs, et vont nous les faire découvrir.
Voilà, donc il y a eu quand même une dégustation avant et un gage de qualité sur les vignobles qui ont été sélectionnés.
Tout à fait. Nous, on fonctionne dans toutes nos actions, on fonctionne par atelier. C'est-à-dire, on a une équipe qui va s'occuper de cette prospection, une équipe qui va s'occuper de tout ce qui est le côté administratif au niveau des autorisations, des plans, des choses comme ça. Enfin, tout le monde est concerné et après, tout le monde est sur le pont pour ces 3 jours.
Pour ces 3 jours. Du côté donc des spiritueux, il y aura du whisky gersois, et il y aura de l'armagnac, bien sûr, avec le Gers à côté, de la bière avec des brasseurs locaux, hein.
Oui.
Et puis on l'a dit, bien sûr, des vignerons. Alors, on est obligé de le dire, hein, là, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est bien sûr à consommer avec modération. Alors, en ce qui concerne l'assiette, hein, puisque vous n'avez pas oublié, hein, c'est des mets et du vin, il y aura bien sûr du foie gras, de la châtaigne béarnaise et plein de producteurs. Oui. Donc, on peut manger sur place. Hein.
Bien sûr. Alors, c'est quand même l'objectif. C'est, outre le fait qu'on puisse déguster et découvrir tous ces terroirs et tous ces vignerons, le fruit de leur travail, c'est de mettre à l'honneur notre territoire qui est très riche en mets, en charcuterie. On a des tapas, on va avoir de la côte à l'os, on va avoir la garbure, La garbure pyrénéenne qui fait son apparition sur le salon. L'objectif aussi, et l'objectif initial, c'était d'associer des mets particuliers du chocolat, de la viande à des vins, en fonction de la particularité des différents territoires. Et c'est ce que nous essayons de faire à cette occasion. Outre le fait qu'on est on est une action caritative, aussi on a une animation pour la ville. Donc on a un double objectif et un double gain. On génère plus de 2000 personnes qui viennent sur notre territoire de Lourdes, et en plus, eh bien, on va redistribuer de l'argent. Alors cette année, c'est encore pour envoyer des enfants en vacances. Et dans les années à venir, on fléchera aussi en faveur de la lutte contre le cancer pédiatrique.
Pédiatrique, oui, on le disait dans l'entretien. Allez, on va, pour les gens qui ne connaissent pas ce salon et qui voudraient bien sûr y aller ce week-end. Alors, on arrive à l'entrée, vous l'avez dit, l'entrée est gratuite, mais on va vous proposer un verre, soit un gobelet pour la bière ou un joli verre à pied qui est toujours sympathique. Moi, j'en ai quelques-uns à la maison, toujours. Et ce verre va permettre effectivement, eh bien, d'aller déguster différents vins. Et c'est ce verre qui est payant, bien sûr. Et c'est là où vous allez faire votre bénéfice.
Tout à fait.
Oui. Et donc, on rentre dans le salon, eh bien, on se balade à travers. On peut, entre amis, aller acheter une côte à l'os, goûter la garbure, mais aller aussi acheter du vin.
Et des huîtres.
Et des huîtres. Les fameuses huîtres. Qui, là, je crois, les huîtres, c'est vous, le lion, c'est qui le faites.
Et oui, c'est nous qui faisons effectivement les huîtres, oui.
Voilà, c'est vous qui les ouvrez et c'est vous qui les, mettez en vente, si j'ai bonne, mémoire. Je sais que le vendredi ou le samedi, il y a des entreprises qui aiment bien se retrouver. Certaines pour échanger ensemble et pour manger ensemble.
On avait initié ça il y a 2 ans, oui. De l'ouvrir le vendredi midi. On est revenu un peu sur ce fait-là. Ça marchait pas forcément très très bien. C'était un peu des gens du public se présentaient dans l'après-midi et tout le monde n'était pas en place au niveau de nos vignerons, et donc du coup ça a créé une certaine des gens n'étaient pas mécontentement. D'accord. Et de ce fait là on a plutôt préféré ces entreprises qu'elles viennent le vendredi soir.
Vendredi soir.
Ça fait un after work, puisqu'on est, on attaque à partir de 17h, et ça permet de se retrouver autour d'un bon verre, oui. Autour des brasseurs, autour des vignerons. Les brasseurs, c'est un côté un peu plus festif, puisque le vendredi soir, on aura un groupe qui va venir pousser la chansonnette, et ensuite, on préfère privilégier le côté dégustation. Et explication du produit par les producteurs.
Par les producteurs. Voilà, vraiment dans ce côté qualitatif, oui. du savoir-faire de nos vignerons ou bien des producteurs qui seront sur place. On le répète, bien sûr, ce salon, il est vraiment caritatif. C'est-à-dire, oui. Que chaque année, vous envoyez des enfants en vacances, oui. Ceux qui malheureusement ne peuvent pas pour des raisons financières. Voilà. Donc c'est important, ce salon, il ramène de l'argent, et cet argent, ben, vous l'utilisez bien.
Oui. L'an dernier, on était aux alentours de 10 000 euros de recettes. Alors, derrière, c'est tout, Alain le disait tout à l'heure, et il en est la cheville ouvrière, une des chevilles essentielles, c'est que il y a quand même un gros travail en termes de sécurité, d'aller chercher les terroirs, de les découvrir, de les mettre en valeur. On a, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a refusé entre 20 et 30 exposants. Et donc, dire non, c'est pas toujours évident. Bon, ça, c'est, on a eu Stéphane Ferriolo qui est plus dédié à cette tâche ingrate, on va dire, mais c'est un Alors, dans les actions du Lions Club, conjointe avec le Rotary, on a le Loto, on a l'Ando Cup qui va revenir l'année prochaine au
match de rugby féminin.
Match de rugby féminin en faveur de l'endométriose. Mais un des points importants, un des moments importants, puisque ça dure quand même vendredi, samedi et dimanche, c'est le Salon Mézévin qui est, voilà, une animation pour la ville. Et une action caritative.
Bah, on peut dire quand même que le Lions, quand vous organisez des choses, vous faites déplacer des foules, puisque ne serait-ce que le loto aussi, le maxi loto que vous organisez avec les Lions et le Rotary au profit, hein, déjà de la recherche contre le cancer, plus ce salon mai 20, ben, vous déplacez du monde, vous déplacez des foules, et c'est toujours, on le répète, derrière, hein, pour du caritatif, hein. Voilà. Et là, c'est pour envoyer des enfants.
Oui, juste quand on parle, on a de l'argent, on récupère de l'argent, mais c'est pas uniquement par la vente des verres. Non. Il faut signaler aussi que les exposants payent pour leur stand.
Pour être sur place, oui.
On en profite aussi pour les remercier parce que on a pratiquement 99,9% des exposants qui nous suivent pratiquement depuis le début. Donc ils sont rentrés aussi dans cette démarche. On n'est pas dans une manifestation commerciale. Alors certes, s'ils viennent, il faut connaître, il faut qu'ils travaillent. Mais on est, Patrick est sensible aussi à ça. C'est que on est dans du caritatif, c'est-à-dire on est dans du don de soi. Et eux, ils ont pris le wagon avec nous. Ils sont dans cette même démarche. Donc il faut aussi les remercier parce que c'est des partenaires importants, quoi.
Voilà, donc il y a le public qui vient, qui va acheter ce verre, oui. Et puis il y a les producteurs qui seront sur place, oui, et qui vous donneront aussi par rapport à la place qu'ils prendront, bien sûr, de l'argent, et c'est tout cet argent-là, effectivement. Et puis la vente des huîtres, hein. Et la vente des huîtres. Qui c'est qui va les ouvrir, les huîtres?
On va trouver. Il y en a plus qui vont les manger, mais bon, on va trouver quand même du
c'est un sujet sensible.
On va rappeler les dates. C'est du 27 au 29 mars, à l'espace Robert Hossein, donc à Lourdes. Donc, il se tiendra ce salon mai et 20. C'est organisé par le Lyon ce club de Lourdes, mai 20, Bernard Moulet. Alors, les ouvertures, vendredi, vous ouvrez donc à 17h jusqu'à 21h, mais les gens qui seront sur place, ils pourront rester jusqu'à 23h.
Tout à fait.
Voilà. Le samedi, c'est ouvert par contre de 10h jusqu'à 21h, et les gens qui seront sur place pourront rester jusqu'à 23h.
Tout à fait.
Et le dimanche, ça sera de 10h à 18h.
D'accord.
Voilà. On est d'accord?
Il n'y a aucun problème.
Voilà. Et le prix du verre est fixé à?
Alors, le prix du verre est fixé à 4€. Et le prix du gobelet est fixé à 2€. Et le prix du pack vert et gobelet est fixé à 5€.
À 5€, voilà. Donc, vous arrivez, il y aura des membres du Lions qui vous accueilleront et qui vous proposeront, bien sûr, le gobelet, le vert.
Oui, ce n'est pas une obligation.
Et ce n'est pas une obligation. Et si vous voulez juste rentrer, faire un tour, eh bien, vous pouvez aussi. Mais en fait, le but, c'est quand même, effectivement, à la fois de déguster et à la fois de faire ce geste solidaire de acheter ce verre. Et puis, il est joli. Puis, moi, je vous dis, j'en ai à la maison. Donc,
surtout qu'on a pris des jolis.
Voilà, et on en est à la 8e édition. Il me faudra encore quelques
pour éditions. Le service.
Voilà, pour le service. Oui,
oui. Vous avez bientôt le service, c'est bon.
Oui, 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 oui.
Allez, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que j'étais avec Patrick Domer. Vous êtes donc le président actuel jusqu'au mois de juin, je crois.
Jusqu'au mois de juin.
Voilà, du Lions. Et puis, vous, Alain Marquette, fidèle, puisque vous venez régulièrement. Peut-être que le prochain rendez-vous, ça sera pour le Maxi Loto.
Non, l'Ando Cup.
L'Ando Cup, sera prévu
plutôt au mois d'août. On est en train d'y travailler. Là aussi, un moment important. L'an dernier, on avait quand même généré du passage, du flux. On a reversé 6 000 euros. En faveur de la lutte contre l'endométriose, donc on a financé carrément un appel à projet, et puis surtout ça a permis de libérer la parole par rapport à une maladie qui a été tue jusqu'à présent et qui d'un coup d'un seul on a pu se rendre compte, nous les hommes, que c'était quand même quelque chose de particulier.
Et la semaine dernière, vos collègues du Rotary de la Loubert faisait aussi pour une association qui s'appelle Les Improbables, qui faisait aussi des petits tours en Porsche, voilà, des baptêmes en Porsche, et qui faisait aussi ça pour cette même cause, l'endométriose. Mmh. Donc on salue bien sûr aussi vos collègues du Rotary et Madame Sapé particulièrement.
Et si je peux me permettre, quand on parle d'Action du Lyons, on a fait aussi sur l'extérieur, parce qu'on a participé au financement d'un fauteuil électrique au golfe du Tumulus qui permettait justement de mettre les personnes en situation de handicap. Et donc ce salon, ce fauteuil arrive samedi, je crois. Donc le Lyons de Lourdes a participé modestement, mais a participé
au financement.
C'était l'année dernière quand on avait fait. L'année dernière, on avait donné une participation. Donc voilà.
Eh bien, écoutez, on sera vraiment très heureux de vous retrouver donc au mois d'août pour parler de ce match qui était du rugby féminin où vous aviez quand même deux belles têtes d'affiche.
Oui. Ouais.
Avec le Stade Toulousain, si j'ai mémoire, et Bayonne.
Et Bayonne.
Voilà, j'ai bonne mémoire. Merci à tous les deux.
Merci.
Et bon vent à vous. Et puis rendez-vous donc à ce salon mai et 20 du 27 au 29 mars à l'espace Robert Hossein à Lourdes.
Venez nombreux.
Présence sur le plateau de Lannemezan 92.2.
Venez nombreux, effectivement. Merci. Et tout de suite, on va faire un point sur l'actualité régionale avec Kevin Mouveau de l'école de journalisme de Toulouse pour le journal de la mi-journée. Et bien sûr, votre question de politique avec les résultats. Bonjour.
Bonjour à tous. Le second tour des municipales livre ses résultats à Toulouse. La Villerolle reste à droite. Jean-Luc Moudenc est réélu maire avec plus de 53% des voix selon les premières estimations. Le maire sortant devance nettement François Picmal, candidat du nom de la gauche. Malgré une dynamique entre les deux tours, la gauche n'a pas réussi à inverser la tendance. La participation, notons-le, est en forte hausse, autour de 62%. Et coup de théâtre dans plusieurs grandes villes de l'ex-région Midi-Pyrénées. À Tarbes, par exemple, scrutin très ouvert après le retrait de Gérard Trémaigne à une triangulaire opposée le Rassemblement National, la droite et le centre. Arrivé en tête au premier tour, Pascal Claverie confirme sa percée face à Éric Pérenne et Michel Garnier dans un contexte de recomposition locale. À Auch, dans le Gers, c'est finalement Camille Bonne, divers droite, qui s'impose au terme d'une quadrangulaire très incertaine avec 37% des voix. La division de la gauche aura pesé lourd dans l'issue du scrutin. À Albi, la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chomeil est réélue. Elle l'emporte avec plus de 44% des voix devant la candidate de gauche Nathalie Ferrand-Lefranc. Le Rassemblement National et la droite complètent le classement. Précisons que la participation, ici, dépasse les 58%. À Rodez, Stéphane Mazard devient le nouveau maire de la ville. Il s'impose avec près de 49% des voix, soit 10 points d'avance sur le maire sortant Christian Teixeira, battu après 18 ans à la tête de la commune. Enfin, à Montauban, la bataille était serrée. Didier Lallemand, candidat du Rassemblement National, remporte l'élection avec environ 38% des suffrages. Il devance Arnaud Hillon et Thierry Deville à l'issue d'un second tour très disputé. Réquisition très lourde au procès de Justine Veyrac. La réclusion criminelle à perpétuité a été demandée contre l'accusé. Lucas Larrivé, 24 ans, est jugé pour le viol et le meurtre de la jeune femme en 2022 en Corrèze. L'avocat général évoque une mécanique réfléchie et cynique après les faits. Depuis le début du procès, l'accusé maintient la thèse d'un accident sans fournir d'explication. Et terminons ce flash par une actualité positive. Une association qui allie golf et maladie de Parkinson vient de voir le jour à Cahors, une première. Créée par Pascal Ricard, lui-même atteint de la maladie, Golf Santé Parkinson propose des initiations pour améliorer le quotidien des patients. Le golf aide notamment l'équilibre, la coordination et réduit les tremblements. L'association compte déjà une vingtaine d'adhérents et se développe à l'échelle nationale. Des événements et initiations sont prévus dans les prochaines semaines.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Sperissen. Bonjour père.
Bonjour Mathias et bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
Vous êtes prêtre diocésain du diocèse de Strasbourg.
Oui.
Avec une très belle mission, ou deux très belles missions, il y en a sans doute d'autres, mais enfin celles qui sont les plus officielles, c'est une responsabilité au niveau de ce qu'on appelle les cours de religion dans l'enseignement public. Ça, c'est la spécificité du diocèse de Strasbourg.
C'est l'Alsace.
Et puis, vous avez cette magnifique mission également d'être aumônier au sein d'un centre qui héberge, accueille, accompagne, est un lieu de vie pour des personnes en situation de handicap mental.
C'est ça.
Et c'est sans doute sur cette vie-là que vous avez comme aumônier que nous allons nous arrêter le plus longuement au cours de cet entretien, car c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez la responsabilité nationale de ce qu'on appelle la pédagogie catéchétique spécialisée.
La PCS, oui.
La PCS, c'est un peu jargonnant, mais gros, ça consiste à apprendre, à comprendre les personnes qui sont fragiles, en situation de handicap, ou auxquelles il faut annoncer l'Évangile.
C'est ça. Il s'agit en fait d'accompagner les personnes qui, dans les diocèses, ont reçu une mission plus spécifique, souvent au sein d'un service de catéchèse ou au sein du service de la pastorale des personnes handicapées, la PPH. Donc d'accompagner les personnes qui rencontrent des enfants, des jeunes, des adultes en situation de handicap, et soit en l'exprimant eux-mêmes, soit leur famille, eh bien, leur permettre de faire un chemin de foi ou un chemin de préparation sacramentelle comme le baptême, la confirmation, la première communion, etc. Donc voilà, c'est un beau travail de rencontre depuis 6 ans dans les diocèses de France auprès de ces personnes en responsabilité ou bien lors de formations plus générales avec des catéchistes des diocèses, mais aussi donc un travail qui permet de soutenir les évêques dans leur vaste mission et notamment cette mission prioritaire d'être au service et à la rencontre des personnes en situation de handicap, des personnes marquées par la vie, des personnes en fragilité.
Vous êtes aussi auteur, compositeur. On vous doit un album récemment, un album CD chez Bayard, ADF Bayard, Chanter l'espérance.
Pèlerin d'espérance.
Pèlerin d'espérance. C'est le titre Pèlerin d'espérance, c'est pour chanter dans le cadre du jubilé.
Effectivement, voilà, avec des chants qui sont déjà connus dans le répertoire paroissial, mais aussi des créations nouvelles en collaboration avec Philippe Tailleux, qui est professeur du Conservatoire de Rouen.
Parfois, dans les milieux de la catéchèse, on parle de l'intelligence de la foi, de la compréhension. On est dans l'intellect. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Or, vous, lorsque vous devez vivre dans un milieu où il y a de la fragilité ou du handicap mental, je pense que c'est sans doute pas la première porte d'entrée que de dire « je vais expliquer ». C'est déstabilisant, non, pour le prêtre que vous êtes, ou que le jeune prêtre, peut-être, quand il a démarré dans ces univers.
Ça peut l'être, ça a pu l'être, effectivement, dans mon parcours de catéchiste et puis de prêtre catéchiste. En même temps, aujourd'hui, on insiste beaucoup dans l'activité catéchétique de l'Église sur une triangulation assez simple qui reprend une philosophie d'un pédagogue suisse, tête, cœur et main. Voilà, une catéchèse doit trianguler entre l'apport de connaissances, effectivement. Dans catéchèse, on apprend des choses, mais il y a deux autres pieds de ce tabouret de piano. Si on enlève un pied, il est bancal. Donc il y a effectivement l'apport de connaissances, plutôt la tête, mais il y a aussi le cœur, c'est-à-dire la relation avec le Seigneur, la vie de prière, l'expérience spirituelle, le fait de permettre de découvrir les mots de la prière, l'espace prière dans le silence, dans le chant, la musique, etc. Et puis le troisième pilier, c'est les mains, c'est-à-dire une vie de foi, une catéchèse qui donne aussi lieu à une expérience de vie et qui rende les choses concrètes, tête, cœur et mains. Et avec les personnes en situation de handicap, évidemment, alors moi j'ai plus une expérience avec les personnes en situation de handicap mental, la première porte d'entrée ne sera pas intellectuelle, ne sera pas la tête, ce sera effectivement le cœur et les mains. Avec les personnes en situation de handicap, on est très attentif à tout ce qui est expression corporelle, tout ce qui va être de l'ordre de l'intelligence de la foi par le cœur. Et donc, effectivement, la première porte d'entrée, ce sera l'expérience spirituelle. Créer des ambiances, permettre une ritualisation, par exemple, de l'expérience catéchétique, du moment catéchétique, qui va commencer par un chant, qui va se terminer par un chant, ou par un moment musical, par un moment de silence, d'expression corporelle, etc. Donc oui, il y a une pédagogie spécifique. Ouais.
Diriez-vous que votre vocation est liée à ces personnes vers lesquelles vous êtes envoyé aujourd'hui?
Je suis issu d'une famille nombreuse. Nous étions 6 frères et sœurs. Un de mes frères est déjà auprès du ciel, auprès de Marie. Mais en 1994, ma sœur est née, accouche de son 3e enfant. Et ma sœur et mon beau-frère m'annoncent « tu vas être parrain de cet enfant ». Donc l'année de mes 18 ans, c'était aussi l'année de mon premier parrainage. Et il se trouve que Sébastien naît trisomique, donc avec cette trisomie 21. Et donc la question du handicap a très vite fait partie de ma vie, de mon expérience familiale, avec ce cadeau qui m'a été fait d'être parrain de Sébastien. Et quelques années après, le papa de Sébastien va malheureusement être frappé d'un accident et sera en fauteuil roulant pendant 20 ans de sa vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque grâce à une opération, il n'a plus besoin de ce fauteuil. Mais oui, je crois que la question du handicap, elle fait partie de mon expérience. Alors, elle ne fait pas partie d'une expérience vocationnelle au départ, mais le Seigneur très vite m'a fait signe dans ce monde, ce milieu du handicap. Ouais.
Alors, aussi, à quel moment intervient la question du chant, de la musique pour transmettre, pour vivre quelque chose d'un autre ordre que uniquement l'ordre intellectuel.
Oui, là aussi, j'ai eu cette chance de pouvoir, dans ma vallée vosgienne d'origine, pouvoir m'inscrire dans une école de musique, une petite ville de 3000 habitants. Et j'ai eu la chance d'avoir une professeure de musique et de solfège qui était formée dans ce que l'on appelle les pédagogies actives, et notamment la pédagogie de Karl Orff. Et j'ai pris goût à un enseignement musical qui passe par l'expression corporelle. C'est-à-dire que, voilà, dans les conservatoires, pour faire rapide, on apprend la musique avec la théorie, ensuite on applique la méthode Orff, on applique et ensuite on met la théorie. Donc j'ai grandi dans un univers musical où la place du corps et la place de l'expression corporelle a une place très importante. Et à l'âge de 18 ans, je reviens à cette année 1994, l'appel du Seigneur était là. En même temps, j'avais envie donc de me spécialiser, de faire une faculté de musicologie, mais j'ai donné priorité dans une année propédeutique au discernement vocationnel. Et j'ai entendu très vite le Seigneur me dire « Ce que tu quittes là, ce domaine de la musique, du chant qui m'était vraiment très cher, tu l'auras au centuple. » Alors, petite confidence, j'arrive donc dans cette année de propédeutique et je connaissais personne. Nous étions une promotion de 18 personnes. On frappe à ma porte le deuxième jour de ma présence dans ce séminaire. Un monsieur âgé frappe donc à ma porte et me dit « Bonjour Christophe, je suis le professeur de chant de cette institution, mais on m'a découvert un problème aux cordes vocales et cette année donc je ne pourrais pas assurer la classe de chant. On a vu dans ton dossier que tu as quelques notions musicales, donc on te demande d'assurer la classe de chant. » Et voilà le Seigneur qui me rejoint à l'âge de 18 ans dans cette année de discernement propédeutique en me disant effectivement « Tu viens de faire un choix, ce ne sera pas la musicologie, ce sera le séminaire, mais on te demande d'assurer la classe de chant dans ce petit groupe de 18 propédotes. » Voilà, et ces signes du Seigneur m'ont accompagné depuis les 22 ans de ministère et tout au long de ma formation au presbytérat. Sans cesse, j'ai rencontré des personnes qui étaient sensibles à la question de la musique dans la catéchèse et dans la liturgie. Et j'ai eu donc l'occasion, notamment avec ADF Bayard et d'autres lieux, de pouvoir produire un certain nombre de chants, de CD dans le domaine de la catéchèse. Le Seigneur est bon, et Marie aussi, bien sûr.
Nous l'avons dit, vous êtes aumônier au sein d'un centre qui accueille des personnes en situation de handicap mental. Vous avez écrit, en cette année jubilaire, un petit fascicule, « Chemin de croix, chemin d'espérance ». Assez difficile d'accéder à l'espérance en passant par la croix, a priori. C'est compliqué. J'imagine que vous côtoyez dans le quotidien de cette maison des gens qui ont des croix lourdes à porter, très lourdes.
Ah oui.
Le prêtre que vous êtes passe pas trop vite à l'espérance parce que sans doute que parfois, c'est compliqué pour les personnes d'être tout de suite là.
Avant-hier, j'ai eu la chance de pouvoir donner un petit témoignage, une petite conférence ici à Lourdes. Et je racontais que le jour de Noël, quand je célèbre à l'institut où je suis aumônier, habituellement, le dimanche matin, il y a 50, 80, 100 personnes, donc des résidents en situation de handicap mental, mais aussi les accompagnateurs, des professionnels qui ne sont pas toujours des catholiques pratiquants, mais qui viennent pour brancarder, pour accompagner, et puis aussi quelques personnes qui viennent de l'extérieur, qui savent qu'il y a une célébration à heure fixe, et qui trouvent que l'ambiance, on y reviendra peut-être, de cette célébration est priante et leur convient. Mais le jour de Noël, je me retrouve avec 15-20 personnes. Et dans ces 15-20 personnes, il y a une dizaine donc de résidents qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille. Alors soit parce que leur situation physiologique ne leur permet pas, elles sont obligées de rester au centre, soit parce que les familles ne peuvent pas les accueillir ou ne veulent pas les accueillir, où il n'y a plus de famille. Et donc je me retrouve avec le Noël dans tout ce qu'il a de véritablement de ce mystère de l'incarnation. C'est-à-dire Noël, c'est la venue de Jésus qui vient dans notre monde selon la promesse que le Père a fait d'envoyer son Fils comme notre Seigneur et notre Sauveur, mais qui vient rejoindre notre humanité. C'est ça le mystère de l'incarnation, dans ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité et dans l'incarnation, mais aussi dans ce qu'il y a de plus difficile, et donc aussi dans ce mystère de la croix. Et il n'y a pas Noël sans Pâques, il n'y a pas Pâques sans Noël. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que je célèbre Noël dans ce centre, je célèbre un Noël avec toute la lourdeur du mystère de la croix, de ces personnes qui sont marquées dans leur corps, dans leur être, dans leur physiologie, limitées et en même temps pleines de capacités. Et le jour de Noël, quand ils sont là, je vis quelque chose de ce mystère de Dieu qui vient les visiter, elles particulièrement. Et donc l'espérance chrétienne, ça marche toujours avec ces deux pieds. Il y a à la fois la croix et il y a à la fois la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans croix. La croix ne s'arrête pas là. Le troisième jour, il y a la résurrection. Et donc l'espérance chrétienne, elle marche toujours avec ces deux dimensions et ces deux niveaux. Alors c'est un apprentissage quotidien, hein. Et il y a des jours où j'arrive à l'intégrer, et il y a des jours où je suis un peu à côté de la plaque. Mais les personnes en situation de handicap, elles nous rappellent ça. Elles nous rappellent que le Seigneur, il est venu, oui, à Noël pour nous sauver. Nous sauver, c'est-à-dire nous ouvrir les portes de la vie éternelle, le jour de notre mort, mais nous sauver déjà chaque jour. Et ces personnes en situation de handicap, elles sont capables de dépassement, elles sont capables d'énergie, elles sont capables d'une espérance qui, moi, m'émerveille à chaque fois. Elles sont là le dimanche, souvent 20 minutes, une demi-heure avant. Je ne sais pas ce qu'elles vivent dans leur cœur, je ne sais pas, parce que parfois elles ne peuvent pas l'exprimer. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie spirituelle, ça leur appartient évidemment, il y a cette chasteté spirituelle, mais elles sont là. Et le mystère de la croix, c'est ce mystère de l'espérance qui, grâce à ses grands frères et grandes sœurs et petits frères et petites sœurs en situation de handicap, me booste.
Nous nous arrêtons quelques instants, si vous le voulez bien, Père Christophe Sperrissen, et puis nous nous retrouvons juste après pour continuer ce dialogue avec vous.
Merci.
À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui est le Père Christophe Sperrissen. On pourrait vous présenter comme musicien, auteur, compositeur. Vous êtes également responsable de cours de religion. Alors ça, c'est une spécificité de votre diocèse.
Effectivement, l'Alsace diocèse de et Strasbourg. La Moselle également.
Voilà, la Moselle. Oui, c'est ça, l'Alsace et Strasbourg. Votre diocèse de Strasbourg, vous êtes incardiné et prêtre diocésain dans ce diocèse, où vous y êtes aumônier au sein d'un établissement, un centre d'accueil de personnes en situation de handicap mental. Vous travaillez également pour la Conférence des évêques de France et pour l'Église de France en général. Vous visitez, nous disiez-vous, les diocèses pour accompagner tous ceux qui le souhaitent ou qui en ont besoin dans le domaine de la pédagogie catéchétique spécialisée.
C'est ça.
Annoncer l'Évangile, parler du Christ à des personnes qui ont un problème, un handicap, une fragilité. Et donc ça fait changer sans doute les habitudes, ça fait bousculer les usages, bouger les lignes. Vous êtes auteur d'un chemin de croix, chemin d'espérance, paru aux éditions du Cygne pour cette année jubilaire, et un album, un CD pour transmettre la foi par la musique, chanter l'espérance, un album qui s'intitule Pèlerin d'espérance.
C'est ça.
Que nous apprennent les personnes de notre foi qui n'ont pas les mêmes mots pour nous que nous pour le dire, parfois même pas de mots pour le dire. Ça doit être décapant, ça, cette expérience, Père.
Alors effectivement, c'est pas l'objet de l'émission, mais quand on parle du handicap, ce serait bien de s'arrêter quand même sur ce mot, en se rappelant qu'il y a un spectre immense de l'ordre du handicap. Il y a des handicaps qui se voient, d'autres qui ne se voient pas, des handicaps visibles, des handicaps invisibles. Moi, je suis plutôt en contact avec des personnes en situation de handicap mental, donc souvent ça se voit quand même, hein. C'est-à-dire des personnes trisomiques, des personnes autistes, des personnes polyhandicapées. Une de mes premières expériences, ça fait 10 ans que je suis aumônier dans ce centre, donc je commence à avoir un petit peu de bouteille. Une de mes premières expériences, c'était que ce sont des personnes sans filtre. Et ça fait du bien. mais c'est décapant. Sans filtre, c'est-à-dire que ce qu'elles vivent, elles l'expriment. Elles l'expriment à leur manière. Alors parfois en faisant des phrases, quand c'est possible, parfois ce sont des mots. Et puis souvent avec des mots qui jaillissent de leur cœur et de leur bouche, sans autre forme de, comment je veux dire, de prudence ou de... d'attention. Ce qu'elles vivent, elles l'expriment. Donc aussi bien dans la vie spirituelle, ce qu'elles vivent avec le Christ, ce qu'elles vivent lors d'une célébration, elles l'expriment avec des mots ou avec des gestes.
Il n'y a pas de personnage social, c'est ce que vous voulez nous dire. Il n'y a pas d'oripeau.
Il n'y a pas de personnage social.
De posture.
Non, non. Je pense à la pub d'une chaîne de restauration. Venez comme vous êtes. Les personnes en situation de handicap, elles nous apprennent à venir comme nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu. Voilà, on est bienvenus dans cette célébration du dimanche matin. Elles expriment ce qu'elles vivent dans l'immédiateté. Je vais donner deux exemples. J'aime beaucoup dire que les personnes trisomiques, le gène supplémentaire, c'est vraiment le gène de la liturgie. Les personnes trisomiques, Sébastien, mon filleul qui a 31 ans, eh bien tout ce qu'il entreprend en termes de déplacement, de mouvement, ça prend du temps. Voilà, parce que physiologiquement, ça a besoin de entre le cerveau et le corps, ça prend du temps. Et quand il y a une inclinaison à la messe, quand il y a un geste de porter une bougie, de monter la bougie avec la parole de Dieu, avec le livre de la Bible, quand il y a une cloche à prendre en main, une clochette pour sonner le moment de la consécration, ça prend son temps. Je pense au geste de paix. À l'institut où je suis aumônier, je sais quand le geste de paix commence, mais je ne sais jamais quand il termine. Parce que il y aura Camille ou il y aura Brian qui voudra aller porter la paix, mais jusqu'au fond de la chapelle et jusqu'à la dernière personne. Et donc en liturgie, on dit que le rite, il donne à voir ce qu'il est censé exprimer, oui. Eh bien, c'est ce que je vis le dimanche matin. Et il y a quelque chose, je crois, à la fois de modélisant et à la fois quelque chose de l'ordre de la maturité auprès des personnes en situation de handicap que malheureusement, je ne trouve pas toujours dans les paroisses dans lesquelles je passe. C'est-à-dire que, encore une fois, on vient comme on n'est pas dévisagé de haut en bas. Voilà, tout le monde vient comme il est. Et puis, ça prend son temps. Et puis, s'il y a une partition à une voix, bah, si ça chante à sept voix, c'est pas grave. Et le rite prend son temps et la célébration prend son temps. Modélisant, l'expression immédiate. Ce qui me frappe aussi avec les personnes en situation de handicap, c'est que c'est une foi qui est de l'ordre de la créativité. Souvent, je vais avoir autour de moi des servants d'hôtel, donc adultes qui sont des personnes en situation de handicap mental, qui vont avec la bougie en main se tourner vers le tabernacle, commencer un chant parce que l'homélie leur a imprimé quelque chose et du coup qu'ils ont envie d'exprimer. Il y a une forme de spontanéité et donc de maturité qui serait chouette de trouver dans nos communautés paroissiales de manière habituelle.
On en parlera justement de la capacité aujourd'hui de l'Église à accueillir toute cette diversité de personnes telles qu'elles sont. Mais quelle est la place dans le cœur de Dieu pour ces personnes ? Est-ce que c'est une place particulière ?
Oui, c'est une place privilégiée. Quand on ouvre les évangiles, là, si les auditeurs et les auditrices ont envie de faire un petit devoir de vacances, ce serait intéressant d'ouvrir un des évangiles ou les quatre évangiles et de regarder le temps que Jésus passe auprès des personnes en situation de handicap, comme on dirait aujourd'hui. Que ce soit des aveugles, des boiteux, des sourds, des muets, des paralysés. Il passe un temps fou dans les évangiles. Ce sont les préférés de Dieu, ce sont les privilégiés de Dieu. Et quand le Seigneur passe auprès de ces personnes-là, d'abord il prend le temps de les rencontrer, de les écouter, de comprendre ce qu'il se passe. Parfois il pose des gestes concrets, souvent il les guérit, mais dans cette guérison, il y a surtout une réintégration. Il les réintègre dans leur famille, il les réintègre dans la synagogue, il les réintègre dans le corps social. Et c'est le côté, pardon pour le mot, parce que c'est pas un beau mot et c'est pas le bon mot, mais c'est celui qui me vient en tête maintenant. Jésus a ce côté révolutionnaire dans le sens où dans la mentalité religieuse juive qui a perduré dans la mentalité chrétienne et qui parfois dans certaines cultures est encore chrétienne, et de dire quand une personne est en situation de handicap, c'est que peut-être il y a eu un péché de sa part ou un péché de la part des parents ou de la famille ou il y a longtemps dans des générations précédentes, et Jésus vient casser ça, il vient briser cette mentalité-là, il vient réintégrer. Donc ce sont les préférés de Dieu, les préférés du Seigneur. Et Marie, évidemment, je crois que là, et c'est pour ça qu'à Lourdes, il y a ce savoir-faire et cette capacité d'accueillir les personnes en situation de handicap de manière tout à fait exceptionnelle. Marie nous aide à comprendre que à la fois donc nous avons à prendre soin des personnes en situation de handicap. Ça, c'est un bon début, mais ce n'est qu'un début. Les personnes en situation de handicap ont quelque chose à nous dire et à nous apprendre de l'expérience spirituelle, de la relation avec le Seigneur et de la vie en Église. Donc il ne s'agit pas seulement de prendre soin et de s'en occuper, ça c'est un bon début, mais ensuite de leur donner leur place, toute leur place, y compris, et ça c'est ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui, de leur permettre d'être catéchistes. Catéchiste, c'est un très beau mot qui veut dire faire résonner la parole de Dieu. Catéchène, c'est faire résonner la parole de Dieu. Et des personnes en situation de handicap, mentales, sourdes, et toutes les formes de handicap, autistes, trisomiques, nous disent quelque chose de la parole de Dieu quand on leur permet d'être intégrés, donc ce que l'on appelle aujourd'hui, le mot m'échappe maintenant, c'est pas l'intégration, bon, peu importe, mais en tout cas, elles nous disent quelque chose de l'expérience de foi, à condition qu'on leur donne la parole. Condition qu'on leur donne.
Diriez-vous que Lourdes est une belle mise en œuvre de ce que vous venez de dire là?
Oui, c'est plus qu'une mise en œuvre. Lourdes, il y a quelque chose de l'ordre d'une bulle spirituelle, humaine. Je suis frappé depuis 3 jours par la bienveillance de toutes les personnes. Quand on arrive à Lourdes, la première chose que l'on voit là en entrant à droite, c'est l'office des chrétiens des personnes handicapées. Donc tout de suite, ça nous dit que là, à Lourdes, il y a une place tout à fait particulière pour les personnes en situation de handicap. Et encore une fois, il y a quelque chose de modélisant. Le pape François, dans son pontificat de 13 années, nous a rappelé les 3 grandes catégories de l'expérience sociale de la vie chrétienne. Le savoir-être, le savoir-faire, mais il nous en a rajouté une quatrième qui est le savoir-être avec. Et Lourdes est une école pour ça, le savoir-être avec les personnes en situation de handicap. Et combien de brancardiers, je sors de la célébration de l'engagement de 28 nouvelles personnes qui acceptent donc d'entrer dans ce service, eh bien, disent, mais je suis venu au service des personnes en situation de handicap, mais waouh, qu'est-ce que j'ai reçu. Et Lourdes, c'est une école du service, c'est une école du recevoir, une école de l'expérience spirituelle auprès des personnes en situation de handicap. Je le crois vraiment.
Et vous êtes de passage à Lourdes à l'occasion du pèlerinage national de l'Assomption.
Oui.
Notre dialogue s'arrête là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on aura une autre occasion. Merci beaucoup, Père Christophe Sperrissen. Je rappelle qu'il y a un petit fascicule dans cette année jubilaire, Chemin de croix, chemin d'espérance, paru aux éditions du Cygne. Il y a également un CD, la transmission par la musique, par le chant. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur.
Ah oui, c'est un canal essentiel dans la catéchèse et avec les personnes en situation de handicap. La voix de la beauté.
Ouais. Paru chez ADF Bayard. C'est donc Pèlerin d'Espérance.
Tout à fait.
Là aussi. Et puis votre diocèse vous attend, puisque vous y retournez sans doute assez vite pour être notamment au milieu de ceux qui vivent dans ce centre où vous êtes aumônier, personnes en situation de handicap. Et sans doute encore de nombreuses visites en France, dans les diocèses, pour accompagner les équipes dans le domaine de la pédagogie catéchétique spécialisée.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Présence dans la cité mariale 96.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Donald Trump annonce de très bonnes et productives discussions pour une résolution totale des hostilités.